Au micro de Jean-Louis École d'Issaingui, Zéphicat des enseignants co-antenne du Congo aussi et d'Issaingui, pétition au micro de Jean-Louis adressée au Zéph Bassin.
Première raison, il y a d'abord, on n'est que l'héritage des pays. Les enseignants entre Issaingui parviennent à leur en grade et rapport à notre rémunéré à Caritas et Consaingui. La seconde corps, au milieu des enseignants, c'est les pays doivent continuer à placement Fortani et au niveau de l'AC. Fassion, nous ne parlons plus à résidence scolaire, soit abandonné. La dernière R retipaye est 1000 dollars. C'est ce qu'elle n'a pas.
Chargé de communication nationale, encore reçu une question, l'on promet de tout faire la durée de l'air. Je prends fin à cette deux journal. Merci. De... Yangambi, deux écoles d'Issaingui. Zéphicat des enseignants co-antenne, pétition au micro de Joseph adressé au Zéph Bassin.
Première raison, il y a d'abord, on n'est que l'héritage des pays. Les enseignants entre Issaingui parviennent à leur en grade rapport à notre rémunéré à Caritas et Consaingui. La seconde corps, au milieu des enseignants, c'est des pays doivent continuer à placement Fortani
et la coordination provinciale de la société civile du Nord qui vous publiez mardi dernier. Lors de la conférence hebdomadaire mercredi, le chef de la MONUSCO a dit avoir reçu des informations similaires et souligne qu'une demande d'investigation a été faite au niveau du mécanisme conjoint de vérification. Reportage.
La société civile parle d'infiltration d'hommes armés depuis le week-end dernier dans au moins 7 localités du territoire de Nyiragongo et 5 dans le Rutshuru. Dans le Massissi, elle dénonce la présence d'environ 300 hommes armés identifiés comme des ex-CNDP non intégrés dans les villages de Mushaki, Karuba et Ngungu. Cette situation préoccupe les populations de ces territoires qui affirment aussi avoir fait le même constat. Maître Omar Kavota, porte-parole de la société civile du Nord Kivu, en appelle à la responsabilité du gouvernement.
Nous pensons que cette menace est très grave. Nous voudrions solliciter ici le président de la République d'ordonner au FARDC et à la brigade d'intervention de la MONUSCO la poursuite de l'action offensive contre le M23 et les autres forces négatives.
Lors de la conférence hebdomadaire de la MONUSCO ce mercredi, Martin Kobler, chef de la MONUSCO, a affirmé avoir reçu un rapport sur le renforcement du potentiel militaire du M23. Il dit avoir adressé à ce sujet une lettre au mécanisme conjoint de vérification de la CIRGL élargie à la MONUSCO pour vérifier ses allégations.
L'ONG internationale spécialisée dans les élections NDI tient à aider la CENI à organiser des bonnes élections en RDC. Hier jeudi, cette organisation américaine a remis à la CENI une réflexion prospective sur le processus électoral. Il s'agit d'un document qui retrace des recommandations qui ont été formulées par plusieurs acteurs politiques, tant de la majorité que de l'opposition. Des recommandations issues de 4 groupes thématiques qu'a organisé NDI depuis le mois de juin 2013 et dont les travaux ont été clôturés hier jeudi. Jeudi à Kinshasa. Il était avec Askin Zigga.
Ces recommandations sont produites pour pallier aux insuffisances électorales observées en 2006 et 2011. Elles concernent entre autres la campagne, l'administration et la sécurité électorale. En termes clairs, NDI propose à la CENI de créer et de renforcer le cadre de concertation avec les parties prenantes au processus électoral, notamment la société civile, le parti politique, les confessions religieuses. Une des recommandations demande à la CENI d'accorder le vote aux Congolais résidents à l'étranger. Pour le vice-président de la CENI à qui NDI a remis cette prospective, la CENI et les acteurs politiques en feront usage pour améliorer le processus électoral. André Pungui.
Je vous assure sur l'engagement de la plénière de la CENI à prendre en compte les recommandations formulées à tous les acteurs politiques au regard des travaux qui viennent de se passer ici. Je vois comment les acteurs politiques lors de la campagne prochaine ne vont plus utiliser les méthodes de la fois passée. J'espère qu'avec ces nouvelles méthodes de campagne, ils vont être élus.
Sachez que toutes ces recommandations ont été élaborées par consensus entre les délégués de la société civile, de partis politiques et même membres de la CENI.
Parlons de la célébration hier jeudi de la journée mondiale de l'abolition de la peine de la mort. Dans un point de presse, l'ONG Culture pour la paix et la justice à Kinshasa demande aux parlementaires congolais de s'investir pour l'adoption de l'abolition de la peine de mort que les autres pays africains ont déjà ratifiée. En rappel, la RDC s'était abstenue lors des votes de la résolution 65-206 de l'Assemblée générale des Nations unies relative à l'adoption d'un moratoire sur sur l'application de la peine de mort en 2010 et en 2012. On écoute Maître Olivier Ngoji, président de l'ONG Culture pour la Paix et la Justice, au micro de Junior Kamunga.
Les avancées que nous avons enregistrées pour le moment semblent stoppées. Et c'est pour cela que nous nous proposons, avec l'appui de la francophonie, de faire inscrire notre pays sur les schémas initiés par les gouvernements belges, français et canadiens, de créer un réseau de parlementaires francophones contre la peine de mort qui puisse booster cette idée au Congo, d'amener les députés à comprendre le bien fondé de ce combat, de cette lutte pour l'abolition de la peine de mort, qui est une lutte pour la vie, qui est une lutte pour l'humanité, qui est une lutte pour les droits humains. Techniquement, on ne sait pas expliquer parce que chaque fois que les Congolais se sont retrouvés de manière sereine, ils ont toujours levé l'option de l'abolition de la peine de mort. Que ce soit la conférence souveraine, que ce soit les accords de San City, que ce soit la conférence nationale des droits de l'homme organisée par le président Kabila, les options toujours étaient d'abolition de la peine de mort. Mais lorsqu'il y a des enjeux politiques comme à l'Assemblée nationale, on commence à regarder les couleurs politiques de la personne qui propose la loi ou le contexte.
Parlons nutrition à présent. L'Institut national pour l'étude et la recherche agronomique INERA, en atelier d'échange d'expérience dans la production des maïs avec protéines de qualité, QPM en sigle, regroupant les agronomes, les agriculteurs et certains responsables de l'INERA. Cet atelier est initié par la coordination du projet national de la promotion du QPM en RDC. L'objectif étant de se rendre compte de l'importance de ce maïs avec protéines de qualité dans les différents coins où il est utilisé. Lancé depuis 2011, le QPM, cette variété de maïs à protéines de qualité, est le résultat d'une étude menée à partir de 2006 par le Programme national de recherche sur le maïs au sein de l'INERA et répandu dans 6 provinces de la RDC en dehors du Sud Kivu. Que doit-on retenir de ce QPM, tentative de réponse dans cet élément de Jacques-Yves Molima?
QPM, ou maïs avec protéines de qualité, est un type de maïs mis au point par des méthodes classiques. Il contient presque le double de la protéine de maïs ordinaire. Selon la FAO, la valeur biologique des protéines du QPM est plus ou moins 80%, tandis que celle du maïs ordinaire est de plus ou moins 45%. Et ce n'est pas tout. En matière de production, la culture de QPM est aussi supérieure, comme l'affirme Simbuyaka Kolongo, coordonnateur du projet national de la promotion du QPM en RDC.
Pour l'instant, même les paysans qui cultivent le QPM sur des sols fertiles, ils sont allés jusqu'à produire 6 tonnes à l'hectare. Le rendement de 6 tonnes est déjà supérieur au rendement de variétés de maïs actuellement sur le marché.
Ce maïs présente aussi beaucoup d'avantages. Le coordonnateur Mbuyaka Kolongo.
En tant que maïs qui contient les protéines de qualité, c'est une solution contre la malnutrition et ça aide les mamans allaitantes qui ont des problèmes d'agalaxie.
Il faut ajouter dans le lot le gain en poids et croissance rapide des enfants ainsi que la récupération rapide de santé des malades après un régime de QPM sous forme de bouillie ou en pâte. Notons que le gouvernement a alloué 500 hectares au plateau de Bateke pour la production de ce maïs.
Pendant ce temps au Kasaï occidental, la moyenne du taux de malnutrition dépasse 10%. C'est ce que révèle le rapport du Pronanut sur les enquêtes menées de 2009 au premier semestre 2013. Dans ce rapport intitulé « La situation nutritionnelle préoccupante dans les 10 territoires du Kasaï occidental », il a indiqué que ce taux de malnutrition a dépassé de loin le seuil du tolérable. Cette situation inquiète la société civile de la province. D'après le responsable de la thématique « Travail, sécurité alimentaire », que l'État engage une action durable pour lutter contre cette situation à plusieurs conséquences. L'ingénieur Kenir Kenandi du Pronanut l'a dit à la presse hier jeudi à Kananga. Ses propos sont recueillis par André Kambala.
Il y a vraiment une insécurité alimentaire, c'est-à-dire que les gens ne mangent pas suffisamment. La petite production qui est là est utilisée à la vente et le peu qui reste, les enfants, les femmes n'y accèdent pas. La deuxième cause, c'est la conjoncture de la structure économique de notre province qui est caractérisée par l'enclavement. Vous avez la province du Kasaï occidental à 2 000 km de Kinshasa, de Lubumbashi ou de Kisangani et dont les états de route sont complètement dégradés avec l'extérieur mais aussi à l'intérieur. Il n'y a pas d'intégration entre les territoires au sein même de notre province. Et la troisième, c'est les pratiques alimentaires en rapport avec l'alimentation. Quand tu vois par exemple décaisser 15%, l'huile 16%, il faut une réponse humanitaire urgente, mais aussi il faut une approche globale durable. Nous saluons à juste titre l'appui du gouvernement local avec un peu d'intrant, mais c'est insuffisant. Donc il faut la prise en charge des personnes dans la situation de malnutrition, mais aussi la réponse durable, c'est-à-dire relancer le système de production agricole et vivrier.
En province orientale, pour terminer, les enseignants de près de 50 écoles publiques de la cité d'Issingué exigent au gouvernement provincial d'être payés par la Caritas Congo et non par Airtel Money, hier à Issingué. Selon les signataires de ce document, les retards de paiement, une mauvaise planification, les retenues illégales dans le salaire des enseignants et les omissions de certains agents sont à la base des perturbations des enseignements dans les écoles d'Issingué et Yangambi. Zéphirin Boyela, secrétaire du syndicat des enseignants du Congo CIECO, antenne d'Issingué, explique les raisons de cette pétition adressée au micro de Joseph Bassaï de la Radio Bondeko.
La toute première raison, on est qu'il y a d'abord le retard régulier des payes. C'est-à-dire que les enseignants du centre Issingué et Sikye Yangambi parviennent à recevoir leur traitement en grand retard par rapport à nos amis qui sont rémunérés par Caritas Congo du diocèse d'Issingué. La seconde, on est qu'il y a encore omission régulière des noms des enseignants sur les listes des payes. Les enseignants doivent toujours continuer à effectuer des déplacements forcés jusqu'à Kisangani et être servis au niveau de Raobak. Voici de telles situations nous compliquent, nous ne parvenons même plus à respecter le calendrier scolaire et les enfants sont abandonnés d'eux-mêmes. La dernière raison est que Airtel Money retire à chaque paye une somme de 1100 francs congolais. C'est ce que la Caritas ne fait même pas.
Contacté, le chargé de communication d'Airtel au niveau national dit n'avoir pas encore reçu une copie de la pétition. L'entreprise Airtel promet de tout faire pour réduire la durée de la paie de salaire. Voilà, c'est par ici que prend fin cette deuxième édition du journal. Merci de nous avoir accompagnés. Okapi, Okapi, Radio, Okapi.